l'analyse morpho-syntaxique en fait dans le cadre d'environnements hostiles. Donc c'est un travail éminemment collectif qui a commencé depuis quasiment 2011. Donc comme l'a dit Jean-Philippe, je m'intéresse à tout ce qui va être la problématique de l'analyse syntaxique des langues non canoniques, tout ce qui n'est pas du texte correctement édité, des langues à morphologie riche, et je m'intéresse aussi en fait au passage de la syntaxe à la sémantique. Donc ici, le contexte général de ce travail, ça consiste à s'interroger en fait sur les problématiques sous-jacentes à ce qu'on appelle le contenu généré par l'utilisateur, UGC en anglais. Et c'est un projet qui est, qui est important dans la mesure en fait où justement l'UGC prend une place de plus en plus importante dans notre vie numérique à tous. Donc ça paraît comme ça être une espèce d'emphase artificielle, mais vous verrez que c'est de plus en plus vrai. Comptez simplement considérer l'impact qu'a pu avoir récemment Facebook sur les élections présidentielles américaines ou ce que peut avoir Twitter sur notre appréhension en fait de l'actualité. Donc, comme je présente un petit peu le cadre dans lequel je m'inscris, c'est une équipe de recherche qui est mixte pluridisciplinaire entre Paris 7 et l'INRIA, avec des chercheurs qui sont plus concentrés sur la partie informatique, d'autres qui sont plus orientés sur l'aspect linguistique, mais en tout cas, on est tous concentrés très fortement sur ce qu'on appelle le traitement automatique des langues. Donc, on n'est pas seulement des chercheurs coincés dans leur tour d'ivoire. On a des grosses collaborations avec pas mal d'entreprises et des startups. Et il y a quelques années, on avait eu un projet intéressant, je ne sais pas si vous voyez bien, un projet intéressant avec l'AFP, en fait, qui a créé du texte en Vichy, à savoir, en fait, du texte qui était produit par les derniers participants à la campagne présidentielle, avec l'idée d'extraire des citations, d'éventuellement de mettre des liens vers des tels ou tels mots-clés, vers des informations du type Wikipédia. Et tout ça, en fait, permettait d'avoir une espèce de moteur de recherche enrichi. Et donc, ça a été un projet qui était extrêmement formateur. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de tout faire automatiquement, de ne pas attendre à ce qu'on obtienne des résultats faits par une espèce de magicien derrière une boîte. Donc, je ne sais pas si à quel point vous êtes familier en fait avec le traitement automatique des langues naturelles, qu'on appelle le TAL. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des cours dessus ou pas. Donc je vais faire comme si je vais vous montrer. Et donc le TAL, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une discipline qui va chercher à structurer des productions langagières. Donc ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire découper du texte en unités de sens. Le truc, c'est qu'on a évidemment plusieurs découpages possibles en partant des unités minimales qu'on peut considérer avec les mots, voire éventuellement les morphèmes. Okay. Si par exemple je dis bureaucrate, phallocrate, technocrate, ici le fait d'employer un suffixe « at » va rajouter une connotation péjorative au mot lui-même et va donc se propager à l'interprétation qu'on peut avoir de la phrase dans sa globalité. Et ça, par exemple, c'est un domaine de la recherche qui s'appelle interface morphologie sémantique, où justement, on va vouloir découper, attribuer un sens à des toutes petites unités. Plus globalement, on va vouloir établir, deviner, prédire les relations entre les mots. Quel est le sujet, quel est l'objet, quel est le modifieur, quels sont les arguments. Ce qu'on veut, en fait, c'est obtenir une espèce de schéma dans lequel tous les mots seraient reliés les uns aux autres via une relation spécifique, une relation syntaxique. Et évidemment, on veut aussi être capable de découper le texte sous forme d'unité de sens sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de déterminer qui a fait quoi à qui, quand s'est déroulée l'action. Le problème, c'est que c'est un peu une histoire d'un serpent qui se mord la queue. À savoir que pour pouvoir structurer et définir ces unités, ça signifie un peu qu'on les connaît déjà. Ça veut dire que si je cherche à définir un texte sous forme de morphème ou de mots, ça veut dire que quelque part j'ai un biais implicite qui va prédisposer en fait ma connaissance de la langue et qui va en gros m'inciter à chercher dans tel ou tel endroit. Par exemple ici, si vous regardez là dans cette liste d'exemples, on va avoir ici ce qu'on appelle un token contracté, je sais pas, qui signifie en fait la variation de je ne sais pas. On va avoir ici la bac à sa pipe, avec ça, c'est une abréviation. Casser sa pipe ici, c'est ce qu'on appelle une expression composée. Ça veut dire en fait une suite de mots qu'on doit interpréter de façon non prépositionnelle et qui donc ici signifie mourir. Et ça signifie en fait que si je considère ces deux petits exemples, la distinction habituelle qu'on va avoir, à savoir qu'un mot c'est une suite de lettres séparées par un espace typographique, cette distinction ne tient pas. Donc ça veut dire que déjà, le premier élément, la première difficulté qu'on va avoir en TAL, à savoir définir quels sont les éléments atomiques, va être quelque chose d'éminemment compliqué. Ensuite, ici, on va avoir des problèmes assez simples, à savoir la différence entre une syntaxe qu'on peut qualifier de régulière et une syntaxe qu'on peut qualifier ici de non canonique. Ici, un exemple en anglais, John is tired, que j'oppose à une phrase qu'on peut trouver sur Twitter ou sur n'importe quel forum, do you know, dude, too tired to think today. Et ici, on se rend compte que le sujet n'est pas présent, le prédicat n'est pas présent, et que ici, on a une forme qu'on verra par la suite qui ne ressemble pas à quelque chose de courant, c'est bien évidemment l'interprétation phonologique de today. Et donc ici, sans même considérer la difficulté d'analyse de ces énonces-là, on va tout de suite se demander, mon Dieu, qui est fatigué? Est-ce que c'est l'interlocuteur, le locuteur, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas spécifié? Donc on se rend compte que le fait d'utiliser une syntaxe non canonique va générer son lot d'ambiguïté. Si en plus ici, on considère quelque chose qu'on peut rencontrer très fréquemment sur les forums ou les médias sociaux, quelque chose comme « I don't feel that brand and stuff », on se dit ici, c'est quoi cette marque? C'est quoi stuff? Qui répond à qui? Bref, on ne peut pas interpréter cette phrase hors de son contexte. Et ça, c'est un problème qu'on va rencontrer extrêmement fréquemment. Vous allez voir par la suite, je donne des exemples de production langagière tirée de jeux vidéo, et vous allez voir qu'elles sont extrêmement contextualisées. Donc, comment ça marche, en gros, le TAL, le traitement automatique des langues? On va avoir deux écoles. Enfin, on avait deux écoles. Maintenant, il n'y en a plutôt qu'une qui a remporté le match. La première école va se concentrer dans la création de ressources linguistiques, ce qu'on appelle des grammaires, avec des lexiques, avec éventuellement des règles d'extraction. Et ces ressources linguistiques vont être utilisées dans le cadre d'applications informatisées, des logiciels, qui vont être extrêmement spécifiques. C'est une approche qui est coûteuse et surtout qui rend ces mêmes ressources linguistiques extrêmement liées en fait à l'application qui va les utiliser. Et ça manque de capacité à être généralisable en fait. Et donc on va avoir depuis l'apparition en fait tout simplement d'ordinateurs performants capables d'effectuer des statistiques et des comptes de façon rapide, donc grosso modo depuis la fin des années 80, début des années 90, on va avoir des applications qui vont être en fait orientées données. Ça veut dire qu'on va essayer d'apprendre ces mêmes ressources linguistiques à partir de données qui ont été préalablement annotées. Ici, l'idée, c'est de se dire, on ne va pas chercher à construire des grammaires, on ne va pas chercher à construire des lexiques, on va chercher à construire des bases d'exemples qui vont être enrichies d'allocations linguistiques, et ensuite, on va laisser ces magiciens du machine learning, une discipline des mathématiques qui s'occupent en fait de construire des modèles d'apprentissage automatique, apprendre des généralisations, et être capable de prédire des choses à partir des données qui vont servir d'entraînement. Ça, c'est l'approche orientée données, data driven en anglais. Il y a une troisième approche que je cite, en fait, par souci d'exhaustivité, c'est l'approche non supervisée. Ici, on parle de gens qui vont être capables d'extraire des quantités d'informations structurées ou non à partir de très grosses masses de données. Imaginez la somme de tout les posts Facebook de vous, vos amis, vos proches, même de la France, à l'approche des élections présidentielles. Si les gens pouvaient utiliser ceci pour prédire les élections, ils le feraient, et non, ils le font. Et donc, ils vont utiliser des données qui ne sont pas annotées, à savoir, c'est juste du texte brut, dans lequel on n'a pas l'indication de qu'est-ce qu'un adjectif, qu'est-ce qu'est le verbe, on n'a pas d'indication sémantique, pour essayer de prédire, en fait, des faits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des approches non supervisées, qui n'utilisent pas en fait d'informations linguistiques. Bien sûr, ici, c'est une généralisation. Il y a des mix de différentes approches possibles. Et évidemment, les meilleurs systèmes utilisent un peu les trois. D'accord. Le type d'approche ici que j'évoque dans les approches non supervisées, C'est ce qu'on rencontre souvent, en fait, quand j'aurais parlé de big data, d'opinion mining ou de text mining, ce sont des approches qui vont utiliser ce type de choses. Pour une raison très simple, le traitement analytique est coûteux en temps. À savoir que quand vous avez besoin d'annoter du texte, quand vous avez besoin d'extraire des informations sur des très grosses masses de données, vous n'avez pas accès en fait à un temps infini de traitement informatique. Vous avez besoin de ressources lourdes. Et donc ça, c'est un coût. Évidemment, on veut réduire ce coût pour avoir des réponses instantanées. On a besoin d'avoir des traitements plus ou moins optimisés. Mais c'est en train de changer. Donc, à quoi ressemblent des données linguistiques, celles dont on parle tout à l'heure, hein, de façon un peu pompeuse? En haut ici, vous avez ce qu'on appelle un art syntaxique, que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos études, éventuellement à l'école. Ensuite, je ne sais plus si en collège on fait ça, mais qui consiste tout simplement à dire, tiens, une lettre, c'est un groupe nominal. Ici, AB est envoyé, c'est un groupe verbal. Ici, VN, ça veut dire verbal nucleus. Ici, la semaine dernière, c'est aussi un groupe nominal. Et chacun de ces syntagmes, du groupe, a une fonction syntaxique. La première, c'est le sujet. Ici, c'est un modifieur. Et là, c'est un objet introduit par la préposition A. Parce que ici, O, on va le considérer comme étant la contraction de A plus le. Dans ce cas-là, tout va bien. Le problème, c'est que ça, c'est une formalisation syntaxique qui est basée évidemment sur une théorie et qui implique des connaissances sous-jacentes. Par exemple, pourquoi ici, la racine du sous-arbre s'appelle NP, pour Known Friends? Comment je sais que c'est un groupe nominal? Parce que je sais en fait que l'être, ici, ça va être ce qui est l'élément important de ce groupe-là, et ça va être lui qui va apporter en fait le sens. C'est l'élément le plus important, ce qu'on appelle la tête. Okay? Donc la tête syntaxique va être déterminée par des connaissances implicites qu'on a de la langue et de différentes configurations syntaxiques. Par exemple, pour une phrase prédicative simple, Jean aime Marie, le chat tue la petite souris, on sait que la racine de la phrase, l'élément le plus important, va être le verbe. Et donc, ils ont été capables de reformuler cette description linguistique en ce qu'on appelle un arbre de dépendance, ici. Où, grosso modo, à chaque mot, on va indiquer quel est son gouverneur. Donc ici, par exemple, une, il va être gouverné par l'être, ici. Et la relation entre les deux va être de type déterminant. Ici, on va avoir l'être qui va être gouverné par l'employé, ici. Et la relation va être de type sujet. Comment je sais qui gouverne qui? Parce que les flèches sont orientées. D'accord? Et donc ça, c'est tout simplement une autre vue de la même information linguistique. Seulement, il y a des informations qui étaient latentes, qui ont été rendues visibles, et d'autres qu'on ne voit plus. On n'a plus l'information, en fait, de... Pourquoi c'est important? Parce que traditionnellement, on s'occupait de prédire ce type de structure auparavant, qui était schématisée sous la forme de relations parenthésées. Vous avez un exemple ici en haut. Alors que celles-ci peuvent être représentées de façon très simple dans un simple tableur. Vous avez des colonnes, okay, avec un numéro de mots, premier, deuxième, troisième, etc. Ensuite, le mot. Ensuite, un chiffre qui va indiquer quelle est la ligne, quel est le token qui va être en fait la tête. Et il se trouve, plus c'est une information qui va dire quel est le label, et il se trouve que cette information-là peut être très très facilement prédite par des systèmes d'apprentissage automatique. L'avènement de ce type de représentation, disons que leur disponibilité, a permis à toute une communauté de chercheurs qui ne s'intéressaient pas à la linguistique de pouvoir s'intéresser au problème et de l'attaquer de front, comme un problème de classification, comme un problème en fait de prédiction automatique. Donc je ne sais pas ce que vous connaissez en fait du machine learning ou pas, mais sachez que c'est omniprésent dans nos vies. Quand vous êtes sur Amazon, quand vous êtes sur la Fnac ou même sur Netflix, quand vous choisissez une série, quand vous choisissez un livre, vous avez très souvent des items qui vous sont proposés, des items de choix. Ces items-là, en fait, ils sont prédits par des machines qui utilisent les données à leur disposition pour le faire. Quelles données? Ce que vous avez précédemment choisi, ce que vous avez aimé, ce sur quoi vous avez cliqué, éventuellement le temps de lecture que vous avez passé à lire un résumé ou autre, tout ça va constituer ce qu'on appelle un ensemble d'attributs, features en anglais, qui vont être utilisés par un modèle de prédiction pour pouvoir vous proposer en fait tel ou tel item chez Amazon ou des films chez Netflix. L'idée, c'est de maximiser une fonction, soit celle qui va vous forcer à acheter quelque chose, Donc là, ils veulent maximiser leur profit. Soit pour Netflix, ils veulent vous forcer à passer le plus de temps possible chez eux. Donc, vous proposez un contenu susceptible de vous plaire. Et ça, c'est très important parce que ici, ce qu'on fait, c'est la même chose. On veut prédire le type de relation qu'on va avoir entre deux mots en utilisant le contexte syntaxique précédent, éventuellement l'information morphologique qu'on peut en tirer, bref, tout ce qu'on peut tirer de ces deux types d'informations. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que, je n'ai pas planté ici un manque de place, c'est que ici, entre les racines des sous-arbres et les mots, vous avez une information importante. C'est une information sur la nature du mot. À savoir, est-ce que une, c'est un déterminant? Est-ce que l'être, c'est un nom ou un verbe? Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des prédictions morphosyntaxiques. Et quelque part, c'est le premier élément le plus important pour essayer en fait de reconstruire la structure sous-jacente. Que ce soit ici ou celle-là. Ici, par gain de place, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi présent. On a besoin de savoir qu'un mot est un verbe pour savoir qu'éventuellement c'est une racine. Il faut savoir que ce verbe-là, il y a des arguments. Et pour aller plus loin, on a besoin aussi d'avoir des informations du type c'est un verbe intransitif, comme dormir, pour savoir que ce verbe-là ne va pas attendre d'objet. Que ce qui va se trouver après va être important. Donc c'est ça en fait, le travail du linguiste. Tout ça pour vous dire que, en tant que taliste, des gens qui font du tal, notre travail va constituer non seulement à construire des modèles, mais aussi à construire des données capables de servir d'entraînement à des modèles de prédiction. Ces données-là, la plupart, on les appelle des tribanques, des banques d'arbres, corpus arboré en bon français. Et donc ici, on va construire à la main ou systématiquement des ensembles d'arbres qui vont servir en fait de données de traitement. Et donc la tâche de prédiction de nouvelles données va s'appeler parsing. Comment on évalue la qualité des modèles de prédiction? Tout simplement parce qu'on réserve une sous-partie des ensembles qu'on a préalablement annotés, qu'on n'utilise pas pour l'entraînement. On retire toutes les surcouches d'annotation, on les prédit, et on va comparer à quel point la structure a ce recours. D'accord? Ce qu'elle nous donnait en fait, tel ou tel score, ou telle ou telle métrique. C'est pas très important de savoir comment interpréter, enfin, de savoir quelles sont les métriques. Ce qui est important de noter, c'est qu'on ne peut pas en fait travailler sans justement avoir des modèles d'évaluation. Ça permet de savoir à quel point le modèle est efficace pour prédire des données qu'il a apprises. Okay? Le truc fondamental, c'est que comme tout modèle statistique, il est basé sur, la plupart sont basés sur l'idée principale, la distribution des données, à savoir comment, combien de fois on va trouver tel mot après tel autre, combien de fois on va avoir ce type de relation, bref, tout ce qui constitue vraiment un modèle. Donc cette distribution-là doit être équivalente entre les données d'entraînement et les données de test. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand vous allez avoir des gens comme moi ou comme d'autres qui vont construire des données, tout simplement, on a le temps du Wikipédia, on a le temps du journal Le Monde, et si du jour au lendemain, on doit annoter d'autres types de données, comme du biomédical, ou comme du Twitter ou du Facebook, on va se retrouver face à un mismatch. Soudainement, on n'a plus du tout les mêmes distributions. Je vais vous donner un exemple. Pensez aux recettes de cuisine. Quand on vous dit réserver la sauce dans le frigidaire, ou dans le réfrigérateur, c'est un plus récent, c'est mieux. Donc réserver la sauce dans le réfrigérateur, ça veut dire littéralement, il faut la réserver, il faut la mettre de côté et la mettre dans la réserve. D'accord? Quand vous avez quelque part réservé un avion, réservé autre chose, l'interprétation sémantique va changer. Éventuellement, l'interprétation sémantique, pas vraiment. Donc vous avez pas mal de cas d'ambiguïté en fait, dès qu'on va changer de domaine, les structures syntaxico-sémantiques qui sont associées aux mots du domaine initial ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la problématique « out of domain », entre guillemets. Ça veut dire comment faire pour faire en sorte qu'un modèle entraîné sur un domaine précis se généralise assez pour être efficace sur un autre modèle. D'accord? Et c'est tout le travail de gens comme moi pour le faire. Donc, je reviens sur le contenu des médias sociaux. Pourquoi c'est important? Je vais aller vite là-dessus parce que maintenant, c'est généralisé. C'est tout simplement, on est passé d'une époque où l'information, l'accès à l'information était contrôlé. Vous deviez acheter un journal, vous deviez acheter un livre, vous deviez lire la presse pour avoir accès à une information écrite, ou éventuellement lire les lettres de votre grand-mère si elle avait encore le temps d'écrire. Et donc, cette information-là, qui était standard, elle était normalisée, parce que tous ces gens avaient des éditeurs, des correcteurs, qui font en sorte que le français qui est exprimé soit standard. Maintenant, via l'émergence de plein d'outils les smartphones, les portables, surtout via Internet, vous avez accès à toute une foule de production langagière qui n'est pas vérifiée, qui est brute, qui vient des gens, ce qu'on appelle le contenu généré par l'utilisateur. Donc, vous avez différents types de médias sociaux, c'est pas la peine que je vous en fasse la liste, vous les connaissez. Ce qu'il faut vraiment considérer, c'est l'impact qu'ils ont sur nos vies. C'est devenu une nouvelle façon d'appréhender l'information. Combien parlez-vous à un compte Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat ou autre?
Beaucoup moins.
Bon, en tout cas, Facebook tous, ça veut dire que vous avez accès à l'information qui est partagée par vos proches, celle qui vous est proposée, et celle qui est éventuellement filtrée par les algorithmes de Facebook, ce qui est un peu différent. Mais en tout cas, vous avez accès à n'importe quel type de contenu. Donc ici, la question, en fait, si on considère que ce contenu est important, donc c'est pas la peine que je revienne sur ce qui s'était passé avec l'ex-première dame de France, ou ce qui s'est passé là récemment avec Trump, vous savez que c'est important. Et donc la question qu'on va tous se poser, c'est de savoir si est-ce que les modèles actuels disponibles en fait en TAL, que ce soit en France ou à l'étranger, sont capables d'analyser en fait de tels contenus. Donc ici, je vais prendre la métaphore que j'avais abouti, que j'essaye de généraliser depuis des années. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tiré du poème de Lewis Carroll, que vous voyez ici en anglais, là vous avez la traduction en français, en gras vous avez tous les mots qui ont été inventés, et qui pose en fait un certain nombre, qui connaissait, que j'avais abouti ici. Vous l'avez fait en linguistique? Et qui l'a étudié en linguistique? Bon, sachez que dans pas mal de cursus de sciences du langage, celui qu'il y avait à Lorraine, celui qu'il y avait à Paris 7 ou à Paris 4, ça fait partie des cours qu'on donne aux étudiants en première année, à savoir leur demander de deviner quelles sont les catégories morphosyntaxiques de chaque verbe. Et pour ça, on leur demande en fait de regarder les indices, les positions, pour justement leur montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin de connaître des mots pour trouver leur catégorie. Donc c'est quoi le rapport avec le contenu généré par l'utilisateur? C'est que là, je vais vous donner un exemple en fait du corpus Web Answer. Donc c'est un corpus constitué de réponses Yahoo qui a été fait par Google en 2012. Et vous voyez ici, donc j'assume que vous parlez tous un peu anglais, que c'est pas non plus de l'anglais super standard, ici. D'accord? Si on regarde en gras les mots inconnus, ça veut dire quoi mot inconnu? Ça veut dire mots qui ne sont pas dans la ressource considérée comme canonique. Pour le français, c'est le journal Le Monde, qui sert de base à nos corpus. Pour l'anglais, c'est le Wall Street Journal, qui sert de base en fait au corpus à noter. Et donc, tous ces mots-là en gras ne sont pas présents dedans. Ici, vous avez d'autres mots en gras qui ne sont pas présents. Donc, you, a, am. Ici, vous avez phrasoïde ou wannabe. Même si on les comprend, même si parfois c'est juste l'omission en fait d'une apostrophe comme ici, il résulte du fait qu'on a deux caractères qui ne vont pas être considérés comme de l'anglais standard. Vous avez un autre problème, donc justement lié à ça, c'est celui de la tokenisation. Ici, toise, que j'ai appris récemment être une forme ancienne de it was en anglais. Donc ici, on va le considérer comme une erreur de tokenisation. Vous avez ici donc pour am, vous avez wanna, qui est la contraction de want to, et all right ici, qui aurait pu être divisé en deux tokens. Et peut-être plus important, vous avez en fait la notion de découpage en phrases. Pourquoi c'est important? Parce que quand on adopte des données, quand on écrit en fait, quand on crée les tree-banks, à chaque fois on va travailler au niveau des unités, des mots, des syntagmes, des phrases, et c'est ça qui va servir en fait de limite, de champ de jeu à nos analyseurs. Si on n'est pas capable de déterminer les phrases, on risque de perdre de l'information. Ainsi donc ici, quand on veut travailler sur un tel contenu, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur trois niveaux en même temps. Le niveau de base, la tokenisation, savoir déterminer les unités de base. Le niveau lexical, comment je fais pour traiter les mots inconnus, comment je fais pour leur attribuer une catégorie ou une annotation morphosyntaxique. Et ensuite, bien évidemment, au niveau en fait syntagmatique, comment je fais pour aborder l'émergence de nouvelles structures syntaxiques. Par exemple, si vous avez tous des amis Facebook qui parlent un peu de façon relâchée, vous connaissez sûrement des gens qui vont dire « je crois il est mort » au lieu de « je crois qu'il est mort ». Vous reconnaissez? Quelques-uns. Donc vous avez pas mal en fait de raccourcis, de fautes de syntaxe, que nous on pourrait considérer comme des fautes de syntaxe, qui en fait peuvent être considérés comme participant à l'émergence de nouvelles formes du français. Et donc ça, en fait, il faut être capable de le déceler, et il faut être capable de l'analyser. Donc ici, vous avez en plus de ça, le fait qu'il faut être capable de traiter, de considérer l'incroyable créativité des gens. Donc vous avez tous vu déjà des gens qui disent le meilleur workshop ever, ou en français ce serait le pire show de télévision, qui vont mettre des points pour mettre une emphase en fait sur les mots, qui a déjà vu ça. Ou des gens qui vont écrire, le entrée, pire, entrée, workshop, pareil. Si on considère plus négative phrase, on va super. Ou des gens qui vont utiliser des espèces de plaisanteries comme mettre un contenu dans ce qui ressemble à une URL, c'est-à-dire comme on disait auparavant, tu sais pas où trouver machin, ou bah, t'as qu'à aller voir sur 3615, je sais pas. Ou des gens qui vont dire www, ah non, c'est hyper daté, faut plus que je fasse cet exemple. Ou des gens aussi qui vont utiliser en fait directement des spécificités Twitter, comme le fait de spécifier une arrobas avant un nom, pour dire qu'on parle à un utilisateur. Et bref, ce genre de choses va rendre l'analyse extrêmement compliquée. Pareil ici, si vous considérez le smiley, vous pouvez considérer comme une ponctuation, vous avez des cas, ou celui-ci, vous allez considérer comme un véritable élément, comme un élément qui a un sens attaché. Ici c'est le sujet. Smiley, d'anonymie, it's funny. Et tout ça, c'est des exemples à tester, hein, évidemment. Donc, je ne vous parle pas d'ASCII art, vous connaissez ? Les gens qui vous répondent tout simplement non, en écrivant le L avec plein de petits N comme ça, le O avec plein de petits O et l'autre X. Pour faire ça, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut transformer, pour aller ça, il faut transformer l'image, le texte en image, et refaire passer dessus ce qu'on appelle une OCR. Donc, se rescaler et retransformer l'image en texte. Donc ça, on ne fait pas. Je ne vous parle pas du reste, à savoir les phrases multilingues, ou ce qu'on appelle ici du mixed text encoding, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc ça, c'était pour pouvoir annoter, pouvoir le considérer. Et si on veut le faire automatiquement, il faut faire la même chose, mais avec des outils extrêmement robustes. D'accord ? Si on considère, en fait, ici, une analyse syntaxique complète comme étant la somme d'analyse multiniveau, découpage en mots, analyse morphologique, analyse syntaxique, analyse sémantique, ça signifie qu'à chacune des étapes, on doit être capable en fait d'être extrêmement robuste. Donc il se trouve que c'est lent, je dois demander à Jean-Philippe, c'est effectivement très lent qu'on traite tous les textes. Donc ici, je vais aller un peu plus vite. Voilà. comme je le disais au début, la plupart, en fait, je sais pas si je dis bien, la plupart des textes qu'on va traiter vont être des textes correctement édités. Et donc, si on veut avoir une idée des performances des modèles sur ce type de nouveaux textes, il faut avoir des données à noter. Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle le French Social Media Bank, ou le Crab Bank, qui est un ensemble de données à noter qui vont traiter des médias sociaux et des données web, de façon, en fait, à avoir une vision des problématiques qu'on va rencontrer et de savoir à quel point on va être mauvais pour analyser ce type de texte. Donc ici, le parti pris, ça n'a pas été, tout linguiste vous dira, que quand on prend des données, on veut avoir un échantillon qui est représentatif, on veut avoir un échantillon stable. Ici, le parti pris, c'était de choisir ce qui était difficile. C'était de choisir en fait ce qui allait poser des problèmes, et donc c'est pas encore plus équilibré dans le sens où on ne peut pas avoir la prétention de dire on va représenter tous les usages de la langue de Twitter ou de Facebook dans un seul petit corpus. Ici. Donc, on a pris les données de Doctissimo, de jeuxvideo.com, de Twitter et Facebook, ici. On a eu des critères qui étaient pleins de présupposés sociodémographiques. Par exemple, on a assumé que les gens qui allaient souffrir de maladies qui touchent des personnes âgées allaient écrire mieux que des jeunes filles qui attendent leur premier enfant, ou des jeunes filles ou jeunes hommes qui discutent de leurs problèmes de couple sur Doctissimo. On ne s'est pas trompé vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on a pris du texte de Doctissimo, en fait, hein, où on a pris du texte de personnes âgées qu'on n'a pas compté ici, où les gens écrivent comme s'ils écrivaient des lettres. C'était pas très intéressant d'un point de vue linguistique, c'était des gens qui prenaient tel ou tel médicament pour l'hypertension. On a pris ensuite des textes qui proviennent des forums de jeunes femmes attendant leur premier enfant. Et là, on avait un contenu qui était bruté, mais encore compréhensible. Et là, on a eu un deuxième présupposé, on s'est demandé ce qui allait se passer si on allait chercher du texte écrit avec peu de contrôle émotionnel. Du texte, en fait, qui vient de forum où les gens évoquent leur rupture amoureuse ou sentimentale. Donc on a pas fait que ça, on a aussi pris le texte qui vient de forums de gens qui ont subi un deuil. Et là c'était atroce, on avait l'impression de violer leur intimité. Mais ce qui se passait en fait, c'est que c'est des gens qui écrivaient dans une situation de stress, de détresse émotionnelle tellement intense, on les imaginait peu, on les voyait pleurer en fait sur l'écran, et on voyait bien que tout ce qu'ils écrivaient, c'était plein de fautes sans contrôle. Et là on a choisi de ne pas travailler plus avant dessus. D'un point de vue éthique, ça nous paraissait compliqué, c'était très très dur en plus à lire. Donc, ici, vous avez deux exemples en fait sur le premier topic. Peut-être que les choses ont changé depuis. Vous voyez ici, vous avez donc peut-être qui est implanté par une espèce d'abréviation. Vous avez ici, lol, vu que 2-3 semaines après, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais 3 semaines. Là, vous voyez qu'il y a quasiment une faute tous les deux mots. Donc, sachez que ça, c'est déjà très dur à analyser. Mais mine de rien, tout ce qui est ici, on peut en fait le reconstruire par des séries de règles de correction plus ou moins automatiques. C'est pas si dur que ça. Et là après, on regarde en fait ce qu'il y a dans le forum des ruptures amoureuses. Et on voit ici qu'on commence à avoir des réels problèmes, une orthographe très difficile, des espèces de surcontractions qu'on appelle des diarrhées typographiques. Ici, comme j'étais, et ça, c'est très très dur à trouver, d'accord? Donc je vous laisse lire la traduction, car je ne me sentais pas désiré, pas aimé, pas belle du coup, n'était pas grand chose en fait. Et donc, ce type de texte nous a paru tellement symptomatique d'erreurs qu'on pouvait trouver très fréquemment par ailleurs, qu'on l'a utilisé comme espèce de groupe de contrôle pour nos expériences. C'est-à-dire que le texte qu'on a contrôlé. On a ensuite pris des choses de jeuxvideo.com, et là c'est intéressant, c'est d'un point de vue lexical. Comme c'est le domaine qui joue aux jeux vidéo ici. Pas si long. Vous savez tout ce que ça veut dire être choté, fravier, etc. Voilà. Créativité lexicale, des emprunts à l'anglais, des choses en fait qui sont extrêmement spécialisées et qu'on va avoir besoin d'analyser. D'accord ? Qu'on va retrouver dans des contextes parfois difficiles. Je vais vous montrer un exemple qui est de Minecraft. Vous allez avoir du mal à suivre. De League of Legends. Et donc ici, on avait pris du texte qui venait de Call of Duty, de Linux, etc., des forums Linux, et c'était les tests qu'on a trouvé les plus créatifs d'un point de vue emprunt linguistique, etc. C'était vraiment très intéressant. Beaucoup plus que ce qu'on a pu trouver. Donc ici, vous avez un exemple, j'ai pas voulu lire, c'est pas possible de dire que Battlefield n'a pas son line, ou bien s'il y a que Juliette et Zayn qui sont connectés sur le RPG et qui font leur vie tranquille. Donc déjà, au niveau syntaxique, il faut savoir que ici, tranquille, faire service, ça veut dire. Il faut savoir qu'il y a un lien entre les deux. Bref, là, ça devient difficile, en fait, à interpréter. Pendant des années, j'ai cru que CO ici, ça voulait dire chef des opérations. C'est un joueur qui m'a dit que ça voulait dire connecté. Pourtant, j'étais un ancien Pokémon aussi, mais pas en ligne, c'était avant. Vous avez sur Twitter, à l'époque, on a commencé à collecter ces données, c'était en 2011, vous avez aussi un présupposé, c'était qu'à l'époque, Twitter, c'était un peu le média social un peu snob, dans le sens où les gens qui étaient s'amusaient à faire des vagues. Il y avait des blogueurs, des journalistes, etc. Et tout le monde faisait une espèce d'effort pour être visible et faire rire ses petits copains. Et donc on trouve ça ici avec ce texte-là. Je soupçonne que l'enfarineuse était en fait une cocaïneuse vu la pêche de Hollande ce soir à Rouen. Rappelez-vous, si vous suiviez un peu, c'était quand François Hollande était candidat, il s'était pris de la farine de la part d'une militante opposée à sa candidature. Et les gens s'étaient moqués de lui pendant des heures sur Twitter. D'accord. Et vous avez ici, d'un autre côté, du texte écrit par des vrais gens, entre guillemets, qui ne cherchent pas à faire des blagues, des plaisanteries, mais qui vont écrire de façon extrêmement compliquée. Et donc là, cet exemple-là est extrêmement syntagmatique. Je vous traduis. C'est même pas élégant, wesh, tu peux même pas marcher. À côté de ça, des meufs qui font les seuls, c'est même pas leur rôle, wesh. Donc on a le net, je vais traduire. Ce n'est même pas élégant, quoi. Tu peux même pas marcher. Quoi. Et là, il y a une erreur. À côté de ça, il y a des filles qui jouent les voyous. Ce n'est pas leur rôle. Donc là, c'est une très mauvaise traduction. Ce qui se passe ici, c'est que, initialement, si on n'est pas capable de comprendre que la phrase s'arrête ici, on va avoir tendance à analyser à côté comme étant un modifieur de marché. On va faire un très gros contresens. Et c'est ici, tout à l'heure, je vous parlais en fait de la nécessité de travailler sur le découpage en là où tu es. Tout en travaillant en même temps sur l'analyse, le microphénomène, comme tu cites TPX, qui veut dire tu peux, ça devient extrêmement difficile. Et ce type de langage est fréquent. On en trouve. Et on en trouve sur Twitter, et on en trouve encore plus quand les gens sont pressés. Imaginez-vous que ces textes-là ont été collectés entre 2011 et 2013, avant l'avènement des correcteurs super efficaces qu'on peut trouver sur Android et iPhone, genre SwiftKey, qui vont faire des corrections thématiques. Donc les gens écrivaient réellement des choses pour gagner du temps. Donc ici, on a cherché ce type de texte parce qu'on est parti du parti pris suivant. Si on est capable de savoir à quel point un analyseur syntaxique courant est mauvais sous ce type de texte, ne peut être que meilleur sur le reste. Donc on a cherché à savoir en fait à quel point on avait de mauvaises performances. En anglais, on appelle ça un crash test. Okay, savoir quelles sont les conditions d'échec absolu de choses qu'on développe. Donc ici, sur Facebook, je vais passer vite, il y avait une petite subtilité sur Facebook, c'est que les gens avaient tendance, je ne sais pas si c'était lié à l'application web ou pas, à utiliser beaucoup plus d'émojis que ce que vous pouviez trouver en fait. Et donc c'est là qu'on apprend que ici, l'emoji cœur, c'est un verbe du français. Que quand quelqu'un va écrire « j'adore la pizza » et que la pizza, c'est la petite icône « petite pizza », ça veut dire « pizza » par exemple, ou ça veut dire « du manger ». Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus d'avoir des modèles linguistiques, on est supposé avoir des modèles pictographiques. Être capable d'attribuer en fait un sens, une syntaxe, une sémantique à ça. Très bien. Par exemple, vous allez avoir aussi des gens qui vont utiliser des flèches. Okay. Ici, la flèche, ça veut dire voter pour Hollande. Il faut pouvoir l'interpréter en contexte aussi. Et ça, c'est très très difficile. Donc, après, je vous passe quelque chose dont j'ai un peu honte, c'est qu'on avait considéré que les gens qui allaient suivre des vedettes de la télé-réalité allaient avoir tendance à écrire de façon non canonique. Ça, c'est là, je vérifiais. Donc, on a vérifié des choses sur Michael Vendetta. Vous vous souvenez de lui? La Vaurose Attitude. On a vérifié des choses. Vous vous rappelez de Fidel Turner? C'était une starlette de Big Brother. Comment c'est en français? Love Story numéro je sais pas combien, qui était extrêmement vulgaire et qui, en plus, a comme particularité d'avoir épousé le fils d'Afida Turner. Et les gens parlent comme ça. Viens, on se check, on n'a pas du move pour voir comment on peut faire la hype à Hollywood avec Jen et Brian. C'est très très difficile à analyser. Est-ce qu'on devrait le faire? Je ne sais pas. Bon, on ne sait jamais. Placez-vous dans l'optique de gens qui vont utiliser les outils qu'on développe pour faire de l'extraction d'informations. Pour être capable de savoir s'il y a des tendances qui émergent ou ce genre de choses. Et on a besoin d'être capable de savoir qu'un texte n'est pas intéressant. Et pour pouvoir le faire, on doit être capable de passer outre. Donc, vu le temps qui m'est imparti, je vais juste vous montrer en fait très rapidement les phénomènes les plus fréquents qu'on rencontre. J'ai une super table, je ne sais pas si vous pouvez la lire. Donc on a trois types de phénomènes. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes ergographiques, c'est-à-dire des phénomènes qui sont en fait des émanations d'une volonté de faire le moins d'efforts possible. Ne pas taper. Mettez-vous dans le cas d'utilisation de quelqu'un qui est sur une tablette sur son fauteuil et qui écrit avec un doigt. Ou alors vous êtes dans le métro à vouloir envoyer un SMS ou à vouloir envoyer un tweet ou un post Facebook, vous n'allez pas vouloir taper. Vous allez donc vouloir économiser vos efforts. Et donc ici, on va retirer les accents, on va phonétiser le texte, on va éventuellement le simplifier et on va éventuellement faire des erreurs. Alors, faire la distinction entre erreur véritable d'orthographe et simplification, c'est impossible. Donc nous, on considère que ça participe au même mouvement. D'accord, s'il y a un S qui saute sciemment ou pas, on va pouvoir l'éviter. Surtout sachant que sur Twitter, on va avoir tendance à... Enfin, on est obligé de respecter une contrainte de forme, et sur Facebook, il y a la contrainte visuelle de la petite page. On va avoir des contractions, nap, til, ou au contraire, des sur-segmentations, en anglais, typographie d'aérosis. Ça veut dire, par exemple, qu'au lieu d'écrire c'était ici, je vais l'écrire c, avec un espace t. Et on se rend compte qu'ici, il y a un découpage qui se fait au niveau, quasiment au milieu du verbe, parfait, et qu'il faut être capable de reconstruire. D'accord? Et ça, c'est très difficile. Après, je vous passe toutes les marques d'expression. Donc, le message, okay, donc ici, si vous avez des questions, je vous montrerai après comment on fait pour analyser ça, mais le message, c'est que Je voulais absolument vous montrer un truc avant. Okay. Le message, c'est que c'est très difficile à analyser. On a besoin de technologies extrêmement développées pour pouvoir être capable d'analyser ce type de texte. Le deuxième message, c'est que vous allez mettre au point des règles de correction. Vous allez mettre au point, en fait, des éléments d'analyse qui vont se retrouver obsolètes rapidement. Qui connaît l'expression « c'est de la balle » ? Qui l'utilise encore ? Est-ce que vous connaissez des gens qui l'utilisent encore ? Donc ça veut dire que si quelqu'un a construit un lexique avec cette expression-là, pour pouvoir l'analyser, ça ne marche plus. Et c'est en fait ce qu'on appelle la variabilité, à savoir que les formes changent, les expressions vont apparaître, vont changer, vont se modifier, et ça, c'est tout un champ d'études, d'ailleurs qui est très bien financé et géré par notre manière, et qui mêle linguistique, sociologie et traitement automatique des langues. C'est très très difficile. Donc, l'autre aspect qui est absolument fondamental, c'est l'aspect contextuel de la production générée par l'utilisateur. Exemple, vous avez ici la photo d'une manifestation en Grèce où vous voyez en fait des manifestants avec des masques à gaz et un chien ici. Et là, vous avez un thread qui était inspiré, qui a trouvé sur Twitter. Donc, j'ai modifié pour le rendre compréhensible. T'as vu qu'il a bien cherché, wesh, apéro chez Rita. Donc là, ici, c'est une plaisanterie, évidemment. Lui, il répond plus 10 000. Qui sait que ça veut dire plus 10 000 ? Qui connaît l'origine de ça ?
C'est les plus 100.
C'est ça. Donc ici, ça vient du temps où les gens avaient des forums. Pour faire remonter un topic, il fallait créer un nouveau message qui faisait apparaître le topic en fait, du plus récent au plus ancien. Et donc, quand on faisait le plus 1, ça faisait remonter le topic pour dire oui, je suis d'accord, je veux que ça remonte. Enfin, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, je veux que mon topic il reste en tête de liste. D'accord ? Ce qui a donné le verbe français très bien, vous soyez. Okay ? Et bien, il y a des gens qui discutent ça, c'est pas plus soir le verbe, qui serait la nouvelle apparition d'une forme irrégulière depuis le 18e siècle, pour la première apparition. Ici, chat, c'est un mot arabe qui veut dire bien fait. Très bien. Et quelqu'un qui écrit t'abuses, j'avais rien fait. Donc, plus 10 000 chats, donc super, je suis d'accord, il a bien fait pour lui. T'abuses, j'avais rien fait. Qui ça, le mec ou son chien? What the fuck you want with, what the fuck is wrong with him? PETA forever. PETA, c'est l'association de protection des animaux. Okay. Donc ici, quelqu'un a compris ça, il écrit en anglais, mais il veut rameuter ses petits copains pour qu'ils plantent avec. Ici. Et ensuite, c'est lui qui répond, si ça, le chien, le... Très bien. Le rigolo, le plus rigolo, c'est quand on traduit ça avec Bing, qui est le traducteur officiel de Twitter. Et évidemment, là, il n'y a absolument rien de correct. Entre les emprunts langagiers, les formes contractées, la syntaxe, l'anglais, plus la contextualisation par rapport à savoir le par rapport au pronom sur le chien, si c'est it, him ou n'importe quoi, ça devient très difficile. On a besoin de contexte pour analyser ça. D'accord ? On a besoin d'être capable d'extraire que ça, ce qu'on va appeler un cil, une graine ici, contenait en fait un chien avec des gens qui manifestaient. Il y a toute une branche justement de l'apprentissage automatique qui s'occupe de sous-titrer, de rajouter en fait des légendes sur des images. Okay, par des méthodes extrêmement compliquées qu'on peut utiliser ensuite pour être capable de résoudre les anaphores. Ici, en l'occurrence, pour le cas de Bit. Je vais vous montrer une dernière chose avant de vous laisser tranquille. Ici, ça, c'est un exemple de League of Legends qui joue à ça. Qui a joué. Vous connaissez donc tous cette petite fenêtre ici, avec donc des gens. Donc là, ici, League of Legends, c'est un jeu vidéo, en fait, avec des gens, avec des gens qui vont... jouer aux sorciers un peu à Harry Potter, à s'envoyer des sorts, machin, avec des protections. Et ici, vous avez en fait la possibilité pour d'avoir soit des spectateurs, soit même des joueurs eux-mêmes qui vont interagir et chatter. Donc on a collecté en fait les textes de cette grille-là pour voir quel était le degré de contexte nécessaire à la compréhension. Okay. On a fait ça aussi avec Minecraft, vous connaissez aussi, okay. Pareil, vous avez là les chats, donc là ici c'est en français. On a collecté, et donc là on pourra remercier les étudiants de la Sorbonne qui ont accepté de jouer à ces jeux-là et de rester en ligne. Ils ont fait des super mémoires de maîtrise sur le sujet. La Sorbonne, c'est une fac moderne. Et donc vous avez ça ici. Et on s'est dit, mon Dieu, on va essayer de comprendre en fait quels sont les phénomènes syntaxiques, etc., qui sont présents dans ce type de texte. Je ne rentre pas dans les détails, je vous donnerai le lien sur un papier si ça vous intéresse. Mais sachez qu'on a utilisé aussi quelque chose en guise de groupe de contrôle qui sont en fait les titres des threads sur les forums de marmiton.org. Qui connaît ? Forum des cuisines, okay. Des crevettes, des spaghettis. Ce soir, vous savez ce qu'il y a ? Pas de verbe. Si je vous dis de la mousse sur mon ananas, quelle mousse ? Est-ce qu'on parle de bactéries ? On n'en sait pas. Et donc après, il y a pas de choses à comprendre. Bref, on a collecté. Vous rigolez, mais c'est présent comme texte. C'est extrêmement important en termes de questions-réponses de savoir en gros ce que les gens veulent. Donc ici, on a utilisé ce type de texte très spécifique pour le comparer par rapport aux autres. Pour la petite histoire, on se rend compte que... le phénomène le plus présent, c'est les ellipses. Que ce soit dans Marmiton ou dans les jeux vidéo, les gens sont pressés. Donc, ils vont remettre, en fait, tout ce qui peut être omis. C'est en gros le principe d'économie associé à la langue. Donc là, par exemple, c'est le pourcentage de phrases dans chacun des domaines. Il n'y avait pas de verbe, il n'y avait pas de prédicat. Il y avait ici ce qu'on appelle les parataxes, à savoir des segments de phrases qu'on accolait. Plein d'autres éléments, je serais ravi de vous montrer après s'il y a des questions. Ce que je veux vous montrer, c'est pas ça. C'est ça. Ah, c'est ça ici. Regardez, ça, c'est un extrait qui est tiré en fait de LOL. À chaque fois, les 3 VS1 et du coup, moins 2 P4. Les LOListes, vous savez ce que c'est? C'est quoi P4? Sans regarder ici. C'est une armure de protection niveau 4. Okay. Et donc ici, 3 VS1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des parties de 3 joueurs contre 1. 3 vs 1, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on réalise? Il manque le verbe ici. Okay. Et là, c'est rigolo, c'est quoi ce coup ici? C'est la personne qui a fait une erreur d'orthographe, qui a voulu écrire du coup, en l'écrivant comme un coup, comme un coup de quelque chose, et il s'est passé quelque chose avec son set complexe, c'est un foiré. Ça veut dire que si moi j'ai une méthode bête de reconstruction orthographique, ici je vais me tromper. Je n'aurai pas la bonne analyse sur ça. Et donc, le plus terrible, c'est son moins 2. C'est quoi ici moins 2? Ça peut être deux choses. Ça peut être soit moins 2 quelque chose, less of something, soit minus 2, moins 2 quelque chose. Et donc là, on a une ambiguïté ici, qui va se représenter, qui va se représenter sous la forme de deux analyses syntaxiques concurrentes qu'on ne peut pas désambiguiser sans avoir accès au contexte, sans savoir en fait à quoi jouaient ces personnes-là, sans savoir exactement ce qui s'était passé avant ou après. Et donc ça veut dire que pour être capable d'analyser correctement du contenu généré par l'utilisateur, on a besoin de prendre en compte tout ce contexte. Et c'est pareil pour tout ce qui est médias sociaux. À chaque fois que vous allez avoir une discussion sous forme de trade, d'enfilade en bon français, vous allez avoir les gens qui se répondent, les gens qui vont utiliser des anaphores, le pronom ça ou cela, ou des choses comme ça. Et si on a envie de reconstruire la sémantique d'une discussion, on est obligé de prendre en compte ce contexte-là. Et si vous considérez le nombre de gens qui vont poster des liens de vidéo, des images, des musiques, et les autres gens qui vont répondre en parlant du contenu lui-même présent dans cette vidéo-là, ça veut dire qu'on a besoin d'être capable de l'analyser. Voilà. Je m'arrête là, sinon j'ai plus de
tuer. Eh bien, merci beaucoup.